Vous écoutez, on lit pour vous.
Courtage immobilier. Trois interrogations parmi les plus fréquentes des consommateurs. Un texte commandité, paru le 18 décembre 2025 dans La Presse. Chaque année, des milliers de consommateurs et de consommatrices contactent le Centre de renseignement de l'OACIQ, l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, dont l'unique mission est la protection du public. Que vous soyez acheteur, vendeur ou simplement en réflexion, certaines interrogations reviennent fréquemment. Voici des scénarios qui illustrent trois questions parmi les plus posées aux agents et agentes du Centre de renseignement de l'OACIQ. 1. Peut-on annuler une promesse d'achat à la suite d'un rapport d'inspection en bâtiment? Nadia signe une promesse d'achat pour une maison conditionnelle à l'inspection du bâtiment. En tant qu'acheteuse, elle est représentée par un courtier immobilier avec qui elle a signé un contrat de courtage exclusif achat. Lors de l'inspection des lieux, le professionnel en bâtiment remarque des signes d'infiltration d'eau au sous-sol, possiblement causés par une fissure dans la fondation, une information qui n'avait pas été communiquée à l'acheteuse. Les travaux correctifs pourraient s'avérer coûteux. Nadia peut-elle annuler sa promesse d'achat? Et si oui, dans quel délai? En tant que consommatrice, Nadia peut annuler sa promesse d'achat conditionnelle si l'inspection révèle des problèmes significatifs et que la promesse d'achat contient une clause d'inspection pré-achat. Pour ce faire, elle doit envoyer un avis écrit au vendeur, accompagné d'une copie du rapport d'inspection dans les délais indiqués dans la promesse d'achat. La réception de cet avis et du rapport par le vendeur annulera la promesse d'achat. Le courtier immobilier de Nadia devra l'aider et la conseiller à travers les différentes étapes du processus, en plus de s'assurer de protéger les intérêts de sa cliente. Soyez vigilant. Le respect du délai inscrit à la clause d'inspection de la promesse d'achat est essentiel pour que l'annulation soit valide. 2. Que veut dire acheter sans garantie légale? Julie est intéressée par l'achat d'une maison vendue sans garantie légale. Elle interroge à ce sujet son courtier immobilier avec qui elle est liée par un contrat de courtage exclusif achat. Ce professionnel lui explique que c'est une clause exceptionnelle qui prive l'acheteur des recours contre le vendeur, sauf si ce dernier a caché volontairement un problème qu'il connaissait. Julie contacte le Centre de renseignement de l'OACIQ pour en savoir plus. Lors de son appel à l'OACIQ, Julie en apprend davantage sur les devoirs de son courtier immobilier dans le cas de l'achat d'une maison sans garantie légale. Dans cette situation, son courtier immobilier devra, entre autres, la conseiller et l'informer des conséquences juridiques de l'exclusion de la garantie légale, lui recommander une inspection en bâtiment plus approfondie, lui proposer une modification de la clause d'exclusion afin de protéger ses droits, rédiger une promesse d'achat qui reflète clairement les intentions de Julie. 3. Nouvelles règles en copropriété divise. Quoi savoir? Antoine a signé un contrat de courtage exclusif achat et visite un condo avec son courtier immobilier. Il est intéressé par le bien immobilier en question, mais il a entendu dire qu'il y avait de nouvelles règles pour les copropriétés divises. Il souhaite obtenir plus de détails à ce sujet. Pour les gens qui souhaitent, comme Antoine, acheter un appartement en copropriété divise au Québec, de nouvelles règles sont effectivement en place pour mieux protéger les acheteurs et assurer une gestion plus transparente des immeubles. Voici les trois principaux changements à connaître. Attestation obligatoire sur l'état de la copropriété. Le vendeur doit fournir une attestation officielle préparée par le syndicat de copropriété qui inclut des informations clés comme la situation financière, le fonds de prévoyance, les travaux réalisés ou prévus, ainsi que les sinistres et litiges en cours. Le syndicat de copropriété dispose de 15 jours après la demande du propriétaire-vendeur pour produire l'attestation. Lors de la rédaction de la promesse d'achat, le courtier immobilier de l'acheteur doit s'assurer que l'attestation est disponible et à jour. Carnet d'entretien et études du fonds de prévoyance. Les syndicats de copropriété ont jusqu'à août 2028 pour établir un carnet d'entretien et réaliser une étude du fonds de prévoyance. Ces documents doivent être produits par des professionnels autorisés et mis à jour régulièrement. Ils permettent de planifier les travaux à venir et d'assurer une saine gestion financière. Versement des acomptes des condos neufs. Lors de l'achat d'un condo neuf, l'acompte doit être versé à un professionnel, avocat, notaire, comptable ou administrateur agréé, et déposé dans un compte en fidéicommis, ce qui sécurise l'investissement de l'acheteur. Vous avez d'autres questions à propos d'une transaction immobilière avec un courtier immobilier? Une agente conversationnelle nommée Élise est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous pouvez aussi poser vos questions aux agents et agentes du Centre de renseignement par courriel à info@oacIQ.com ou en semaine par téléphone au 1-800-440-7170. C'était Courtage immobilier, trois interrogations parmi les plus fréquentes des consommateurs, un texte commandité, paru le 18 décembre 2025 dans La Presse.
Allocation controversée. Québec met fin au programme d'intégration au travail pour personnes handicapées. Un texte de Caroline Touzin, publié le 16 janvier 2026 dans La Presse. Jérôme, qui fait le ménage dans une cafétéria de Cégep depuis 13 ans, reçoit une allocation de 5 $ par jour. Québec met fin à une allocation controversée destinée aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme, qui œuvrent sur des plateaux de travail visant à faciliter leur intégration au marché de l'emploi. Avec l'argent épargné, environ 3 millions, le gouvernement s'engage à créer de nouvelles places pour les nombreuses personnes handicapées, actuellement en attente d'une place dans une activité socio-professionnelle. Ateliers, plateaux de travail et stages, a appris La Presse. En mars 2025, La Presse révélait que plusieurs participants au plateau de travail recevaient un salaire d'à peine quelques dollars par jour, qui correspond plutôt à une allocation destinée à soutenir les dépenses liées au transport pour faciliter la participation au programme. La presse rapportait notamment le cas de Jérôme, qui fait le ménage dans une cafétéria de Cégep depuis 13 ans, pour 5 $ par jour. Dans notre enquête, de nombreuses voix, dont la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, avaient dénoncé l'exploitation des personnes handicapées, certaines parlant même d'esclavage. En réaction à cette enquête de La Presse, le ministre délégué aux services sociaux de l'époque, Lionel Carman, qui siège désormais comme indépendant, avait promis d'abolir cette allocation dès juin dernier. La directive vient de se concrétiser. L'allocation cessera d'être versée à la fin du mois. Donner une vraie chance. À Santé Québec, on assure que d'autres mesures vont suivre pour corriger les problèmes révélés dans notre enquête journalistique. Une directive visant à limiter la durée du séjour des personnes prêtes à l'emploi sur un plateau de travail, telle que promise par l'ex-ministre à l'époque, est notamment en préparation, assure-t-on du côté de Santé Québec. On souhaite ainsi leur donner une véritable chance d'accéder à un vrai travail où ils seront rémunérés comme n'importe qui d'autre. Clairement, il y avait des gens qui avaient un potentiel de se développer davantage au niveau de leurs compétences et l'intégration à l'emploi, là, mais qui étaient comme pris, un peu dans une cage dorée, avec l'espèce d'incitatif financier, les fameux 5 $ par jour, et ça ne leur permettait pas de progresser, explique Tong Tran, directeur général santé mentale, dépendance, neurodiversité et déficience physique de Santé Québec. Les modalités de cette directive restent à préciser. À titre d'exemple, on pourrait dire à une entreprise privée, au bout d'un an, « Le trouvez-vous bon, cet employé-là? Si oui, allez-vous l'embaucher? » explique Tong Tran. Et si la réponse est non, puis qu'effectivement la personne est vraiment bonne, on va l'aider, on va l'accompagner pour se trouver un vrai emploi. Alors qu'elles sont censées y participer de façon temporaire pour acquérir des aptitudes de travail et éventuellement intégrer le marché de l'emploi ordinaire, les personnes participant au plateau sont majoritairement devenues des employés permanents, déplorait déjà la Commission en 2025. L'ex-ministre Lionel Carman arrivait à une conclusion similaire dans une entrevue à la presse en juin dernier. Enfin, les frais de transport seront désormais remboursés via un formulaire simple, assure-t-on au gouvernement. La nouvelle directive concerne près de 4 000 personnes, estime-t-on, à Santé Québec. Il n'y aura pas de coupure, assure M. Tran de Santé Québec. Lorsqu'il participe aux programmes socioprofessionnels, les stagiaires ont accès aux programmes de revenus de base pour ceux qui ont des contraintes sévères à l'emploi. Vers la fin des éternels stagiaires? À Santé Québec, on estime que 3 à 5 % des gens participant à ce genre d'activités socio-professionnelles parviennent actuellement à intégrer le marché de l'emploi. M. Tran fait le parallèle avec une victime d'un accident de la route qui doit intégrer un centre de réadaptation après être devenu paraplégique. À la fin de son séjour, le blessé sera redevenu le plus fonctionnel possible, sans toutefois parvenir à marcher de nouveau. Il faut voir les plateaux de travail et autres activités socio-professionnelles comme de la réadaptation, insiste M. Tran. Beaucoup ne pourront jamais intégrer le marché de l'emploi, explique-t-il. Mais encore faut-il donner l'occasion à ceux qui en sont capables de ne pas rester d'éternels stagiaires, convient M. Tran. À la suite de l'enquête de la presse, une demande d'action collective a été déposée contre le gouvernement du Québec pour dénoncer les programmes socioprofessionnels non inclusifs. Le recours judiciaire vise à obtenir une indemnisation pour les participants à de tels programmes, ainsi que la reconnaissance, de même que la fin des injustices qui y sont vécues. Il est essentiel que la transition vers le programme de remboursement des frais de transport se fasse sans perte d'allocation pour les personnes participantes et que le soutien financier offert reflète adéquatement les dépenses liées à leur participation aux activités socioprofessionnelles. Réagit, pour sa part, la directrice générale de la SQDI, Amélie Durand-Lot. Jérôme a demandé l'anonymat de crainte de subir des représailles professionnelles. C'était allocation controversée. Québec met fin au programme d'intégration au travail pour personnes handicapées. Un texte de Caroline Touzin, publié le 16 janvier 2026 dans La Presse.
Des jeunes de la DPJ sont encore bien démunis à leur sortie. Un texte de Jessica Nadeau, publié le 12 décembre 2025 dans Le Devoir. Malgré des modifications à la loi sur la protection de la jeunesse, les jeunes qui sortent du réseau sont encore souvent démunis pour faire face à la vie adulte, constatent plusieurs organismes qui travaillent avec eux. Avec son hoodie et ses petits souliers, Michael n'est pas équipé pour affronter le froid glacial qui s'est installé trop tôt cet hiver. La semaine dernière, il s'est fait des engelures aux cuisses. Comme plusieurs autres jeunes issus de la DPJ, il s'est retrouvé à la rue à 18 ans. 2 ans plus tard, grâce à l'aide d'un organisme communautaire, il a réussi à se trouver un appartement subventionné où il vit toujours. Mais à 25 ans, il connaît une situation financière précaire. Jade, dont nous taisons le véritable prénom pour lui éviter d'autres ennuis, en arrache aussi. À peine sortie du réseau de la protection de la jeunesse, elle y est revenue comme parent, sa fille de 5 ans grandissant dans une famille d'accueil. Pour réussir à payer son appartement, qui coûte 2 fois plus cher que ce qu'elle reçoit de l'aide sociale, la jeune mère de 28 ans arrondit les fins de mois en vendant son corps. Et lorsque ça ne suffit pas, elle sous-loue sa chambre pour quelques semaines et va vivre dans un mini-campement qu'elle s'est construite dans un parc, à l'abri des regards. Michael et Jade, rencontrés dans un immense entrepôt de l'Est de Montréal, font partie des quelques 9000 jeunes qui ont pu obtenir des vêtements d'hiver offerts par Équipe Jeunesse, un organisme créé par Nancy Odette, elle-même une ancienne de la DPJ, pour aider les jeunes qui vivent en situation précaire et offrir un peu de chaleur à leur corps et à leur âme. Des jeunes mal préparés. Très investie auprès des jeunes de la DPJ et de ceux qui en sortent, Nancy Odette estime que ceux-ci sont encore très mal préparés à la vie adulte, malgré les changements apportés à la loi sur la protection de la jeunesse et la bonification du programme qualification des jeunes, PQJ, qui vise à mieux les outiller et à les accompagner dans leur passage à la vie adulte. Des jeunes qui quittent les centres jeunesse avec leur sac poubelle le jour de leurs 18 ans, elle en voit encore. Les gens pensent que c'est réglé, mais non, affirme-t-elle. Oui, il y a une certaine amélioration. Les gens sont plus conscientisés. On doit fournir un plan de transition à tous les jeunes. Malheureusement, dans la pratique, ça ne semble pas suffisant ou adéquat pour les jeunes. Les jeunes se ramassent en centre jeunesse parce que leurs parents n'ont pas réussi à assurer leur sécurité et leur développement. Et ils entrent dans un système qui ne le fait pas plus. C'est être doublement condamné. Marc-André Bélanger, directeur général du regroupement des Auberges du Cœur. Quels que soient les efforts déployés, certains refusent en effet de se laisser aider par le réseau en raison du lien de confiance qui est brisé, constate Mme Odette. Certains jeunes ont tellement souffert durant leur placement qu'ils ne veulent que partir. Ils ne veulent plus jamais avoir affaire à ce système-là. Tant qu'on va continuer à être dans la répression, on va avoir des jeunes qui vont préférer aller vivre dans la rue qu'être aidés par ce système-là. Selon elle, l'argent investi dans le réseau pour les soutenir à leur sortie aurait plutôt dû être injecté dans le communautaire qui réussit mieux avec les jeunes. Ressources d'hébergement pleines. Dans le communautaire, les ressources d'hébergement qui accueillent les jeunes débordent. L'organisme Dans la rue, qui estime qu'environ la moitié de sa clientèle est passée par la DPJ, refuse de plus en plus de demandes faute de place. Des intervenants du PQJ aiguillent vers lui des jeunes qui ont besoin d'hébergement d'urgence ou de logement social, explique sa directrice générale adjointe Marie-Noëlle L'Espérance. Mais plusieurs arrivent par leurs propres moyens, après s'être retrouvés en situation d'itinérance parce que leur plan de transition ne se déroulait pas comme prévu. Elle en voit aussi qui sont juste tannés des interventions et qui recherchent la liberté à tout prix, quitte à vivre dans la rue. Aux Auberges du Cœur, qui accueillent aussi beaucoup de personnes issues des centres jeunesse, on comptabilise plus de 6 000 refus par année, soit 3 fois plus que d'admissions. Si la transition vers la vie adulte est une période difficile pour tous, la marche à gravir est encore plus haute pour ceux qui sortent du réseau des centres jeunesse, explique le directeur général du regroupement des Auberges du Cœur, Marc-André Bélanger. Le plus grand défi auquel ils font face, c'est l'autonomie. Ils sont capables de faire leur lit au carré, mais ils sont incapables de cuire des pâtes et demandent encore aux intervenants la permission pour aller aux toilettes. Il a beau être critique du PQJ, M. Bélanger reconnaît que c'est tellement mieux qu'avant. Mais, selon lui, l'État faillit encore à sa tâche. Les jeunes se ramassent là parce que leurs parents n'ont pas réussi à assurer leur sécurité et leur développement, et ils entrent dans un système qui ne le fait pas plus. C'est être doublement condamné. À Santé Québec, on rappelle que le programme Qualification des jeunes a élargi son offre depuis 2021 et qu'une instance de coordination nationale pour la transition vers la vie adulte a été mise en place l'an dernier. Plusieurs initiatives soutiennent désormais la stabilité résidentielle, incluant des projets d'habitation, le supplément au loyer jeunesse, le soutien à la persévérance scolaire et la possibilité de demeurer en ressources intermédiaires et de type familial jusqu'à 21 ans, dans certaines conditions, répond la direction des communications. Nous poursuivrons la consolidation de ces avancées tout en renforçant le changement de culture institutionnelle en cours. C'était « Des jeunes de la DPJ sont encore bien démunis à leur sortie », un texte de Jessica Nadeau, publié le 12 décembre 2025 dans Le Devoir.
Pas si vite dans ma cour. Un texte de Angie Landry, publié dans l'actualité édition de novembre 2025. En sous-titre, la crise du logement ne justifie pas la construction tous azimuts, disent des citoyens qui réclament des moratoires, comme à Sainte-Adèle. Des municipalités rurales, à la marge des couronnes de grandes villes, sont sous pression depuis quelques années. C'est le cas notamment de Sainte-Adèle, dans les Laurentides, où des promoteurs immobiliers désirent profiter de l'attrait que représente pour les retraités et les télétravailleurs cette région qui s'est développée historiquement grâce au tourisme et à la villégiature. 3 projets immobiliers créent d'importants remous dans cette ville de 15 027 habitants. Celui du bourg du Lac prévoit la construction de 42 logements locatifs de luxe. Le projet de revitalisation de l'ancien centre de villégiature Chanteclerc annonce l'ajout de 1300 portes et 51 lots résidentiels doivent voir le jour sur le terrain de golf alpine. Au moyen d'une pétition, des centaines d'Adélois ont demandé au printemps 4 moratoires pour freiner, guillemets, l'urbanisation rapide, fin des guillemets, dont un qui viserait tout nouveau lotissement. Il ne serait pas juste d'évoquer ici le « pas dans ma cour », tranche Gérard Baudet, professeur titulaire de l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal, qui constate de plus en plus de dilemmes du genre, notamment à Mont-Tremblant, à Stoneham, et dans certains secteurs en bordure du lac Memphrey-Magog. On bâtit beaucoup et vite partout au Québec, guillemets, au nom de la crise du logement, fin des guillemets, critique l'urbanisme, citation, Il faut prôner un meilleur équilibre, dit-il, quitte à revoir et adapter la réglementation municipale. À Sainte-Adèle, le projet Le Bourg du Lac, par exemple, soulève une question environnementale en raison de la présence du lac Rond, emblématique au centre-ville, et sous pression depuis des années à cause des nombreux lotissements. Des voisins, Dominique Pilon et Christian Chauveau, ont été étonnés, un matin d'octobre 2024, de constater que le constructeur avait coupé des arbres de la bande riveraine, que la ville les avait sommés de revégétaliser chez eux 10 ans plus tôt. Citation, ils ont rasé 6 acres, 3 acres de forêt en 2 jours, raconte le couple. En août dernier, la ville a suspendu le permis de construction du promoteur à la suite d'une nouvelle analyse environnementale. Selon Gérard Baudet, une bonne partie des municipalités québécoises ne sont pas outillées pour répondre à la pression exercée par certains promoteurs, lesquels, guillemets, instrumentalisent la crise du logement. Jusqu'à tout récemment, à Sainte-Adèle, il était, citation, presque impossible d'interdire la construction à moins que les zones soient considérées comme humides ou sensibles, admet la mairesse sortante Michel Lalonde. C'est sans compter l'impossibilité de s'appuyer sur du zonage agricole pour protéger ses terres. Citation, si on refuse un projet quand la réglementation le permet, on risque d'être poursuivi par le promoteur, ajoute-t-elle, fin de citation. Une nouvelle politique d'habitation a été adoptée à quelques jours du début de la campagne électorale municipale. Ces balises pourraient servir à la prochaine équipe en poste. Le professeur Baudet cite, en exemple, la ville de Longueuil, qui mise sur, guillemets, un urbanisme négocié, fin des guillemets, où des promoteurs se font offrir un lotissement en échange d'un pourcentage de logements sociaux. La densification doit être pensée en tant que projet urbain, donc, guillemets, autour des habitudes de vie, fin des guillemets, des citoyens. On doit ainsi réfléchir en amont, guillemets, à l'emplacement des écoles, des parcs et des garderies, fin de citation, dans le secteur résidentiel. Citation, il faut arrêter d'être strictement un terreau d'accueil de projets immobiliers. Fin de ce texte titré « Pas si vite dans ma cour », signé Angie Landry et publié dans l'actualité édition de novembre 2025.